Voilà, gloire au Seigneur. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu. On va ouvrir la parole de Dieu dans le livre de l'Exode, au chapitre 14 et au verset 5. Exode, chapitre 14. Et le verset 5. Et juste avant, je vous invite à prier le Seigneur. Merci encore pour ces chants. Nos cœurs sont tournés vers toi dans la reconnaissance, dans la foi. Merci de prendre le contrôle de ces instants. Et nous voulons méditer ta parole parce qu'elle est là. Vérité, parce qu'elle nous conduit, Seigneur, dans tout ce que tu désires pour nos vies, pour nos âmes. Nous te prions d'ouvrir notre intelligence. Nous ouvrons nos cœurs à ta parole et nous voulons la méditer. Merci de nous enseigner ce soir et de nous conduire dans tout ce que tu veux pour chacune de nos vies, dans le nom de Jésus. Amen. J'aimerais parler sur « La victoire appartient à l'Éternel » dans Exode, chapitre 14, verset 5. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Ils dirent « Qu'avons-nous fait en laissant Israël dont nous n'aurons plus les services ?» Et Pharaon attela son char et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Il y avait sur tous des combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, le roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Les Égyptiens les poursuivirent. Tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée les atteignirent, campés près de la mer, vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Tsephon. Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux, et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, « N'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il soit besoin de nous mener mourir au désert ? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte ? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte ? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir dans le désert. » Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. » L'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi ces cris ? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel, quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. Amen. » Passons parfois par des situations où tout semble perdu, tout est négatif, les paramètres en fait sont défavorables, et quand on regarde à gauche, on ne voit pas d'issue, à droite, il n'y a pas de solution, on est coincé. Alors notre première réaction quand les choses tournent mal, c'est de penser que Dieu nous a abandonnés. Penser que nous sommes perdus. Peut-être demander à Dieu, mais pourquoi as-tu permis cette situation ? Pourquoi est-ce que j'ai tant de problèmes ? C'est un petit peu ce qui arrive à Moïse et au peuple. Ils sont dans une situation vraiment catastrophique. Pourtant, ça avait bien commencé, puisque après les 10 plaies, le Pharaon a laissé partir le peuple. Et la Bible nous dit même qu'ils sont partis la main levée, donc ils avaient vraiment la victoire avec eux. Ils ont été délivrés de l'esclavage, ça faisait 400 ans, donc c'est une grande bénédiction, c'était une grande victoire. Alors c'était une belle liberté qu'ils avaient obtenue. Mais voilà, Pharaon n'a pas laissé le peuple tranquille. Ils sont arrivés en plus dans une impasse et Pharaon a entraîné toute son armée pour récupérer le peuple et le faire revenir en Égypte. Pharaon, c'est une image de Satan. La sortie de l'Égypte, c'est une image de la conversion. Nous sommes sortis du monde, de ces principes, de l'esclavage dans lequel nous étions empêtrés. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et puis, Satan, et le Pharaon, c'est un peu comme Satan, il veut récupérer ceux qui sont sortis d'Égypte pour les ramener en Égypte. Ça veut dire que Satan, lui, il fait tout pour nous récupérer et nous ramener dans la captivité parce que nous étions sous son contrôle. Le premier point que je vois, c'est au verset 9. C'est d'abord une situation sans issue. Les Égyptiens les poursuivirent, tous les chevaux et les chars de Pharaon et ses cavaliers et son armée les atteignirent, campés près de la mer vers Pi-Hahiroth vis-à-vis de Baal-Tsephon. Moïse avait déjà rencontré de grandes difficultés en conduisant ce peuple parce qu'il avait été rebelle. Même quand Moïse était là, il y avait eu des complications. Mais ici, en fait, la difficulté a passé à un stade supérieur. Un stade supérieur parce que Moïse se retrouve à la tête de 3 millions de personnes dans le désert. Donc on estime à 3 millions le peuple d'Israël. Et ce qui est curieux avec Dieu, et parfois ça nous désarçonne, mais là, Dieu va conduire le peuple dans une impasse. Clairement, c'est une impasse. C'est-à-dire qu'il les fait arriver devant la mer Rouge, mais la mer Rouge, vous ne pouvez pas passer. Et derrière, vous avez l'armée de Pharaon qui arrive. Donc vous êtes vraiment dans une situation sans issue. Pourquoi ? Parce que Dieu sait toujours ce qu'il fait. Et le verset 4 dit ceci. J'endurcirai le cœur de Pharaon, il les poursuivra. Donc ça veut dire que Dieu savait déjà que ça allait faire ceci, c'est-à-dire qu'ils allaient être coincés et qu'en plus Pharaon allait les poursuivre. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Tout ça, le verset 4, c'est dit avant toute la lecture qu'on a faite. Ça veut dire que Dieu savait déjà que le peuple serait dans une impasse et que Pharaon et toute son armée allaient lui tomber dessus. Et en plus, il dit, je vais faire ça pour faire éclater ma gloire. Donc, pour nous qui voyons les choses dans le temps présent, on ne voit pas forcément à la vision de Dieu. La vision de Dieu, c'est, je vais faire éclater ma gloire et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel et les enfants d'Israël firent ainsi. Donc, en fait, le plan, il est là. Dieu connaît déjà les situations, il nous conduit dans une impasse, il sait en plus qu'il va y avoir tous les ennemis qui vont fondre sur nous, mais il dit « je vais faire éclater ma gloire ». Et ça, nous devons le croire dans notre cœur. Pharaon, lui, il part lui-même au combat avec, la Bible dit, 600 chars, c'est-à-dire c'est les armes les plus puissantes de l'époque. Les chars, ils étaient bien armés, les combattants d'Égypte. D'abord, il faut tout simplement savoir que l'armée d'Égypte, c'est l'armée la plus puissante du monde de l'époque, tout simplement. Il n'y a pas de combattants qui peuvent tenir devant l'armée d'Égypte. Les Égyptiens sont vraiment forts au combat, dans les stratégies, dans les armes, dans les chars. Enfin, ils ont tout pour écraser n'importe quelle armée ennemie. C'est un petit peu comme si vous compariez la force de frappe des États-Unis avec le Liechtenstein. Oui. Il n'y a pas de comparaison possible. D'abord, au Liechtenstein, il n'y a même pas d'armée. Donc, si vous voulez vous défendre, c'est vous dans la rue, vous devez sortir et vous battre vous-même. Et vous imaginez la puissance de l'armée, la plus grande armée, la plus forte du monde, c'est les États-Unis. S'ils fondent sur le Liechtenstein, c'est sûr qu'il vaut mieux être du côté des États-Unis à ce moment-là. Et là, il n'y avait aucune chance pour que les enfants d'Israël s'en sortent face à l'armée la plus puissante du monde. En plus, le peuple d'Israël, ils ne savent pas se battre. Ils ont été 400 ans esclaves, ils n'ont pas d'armes. Et puis, ils sont bloqués, ils sont lents, ils ne peuvent pas se déplacer rapidement. Bref, ils sont dans une situation très défavorable. Dieu avait endurci le cœur de Pharaon pour accomplir ses desseins. Ça veut dire que Dieu peut incliner les cœurs comme il veut, dans une direction ou dans une autre. Il ne faut pas oublier à l'origine que c'est quand même Pharaon qui avait endurci son propre cœur. Vous voyez ces versets ? Pharaon endurcit son cœur et puis à un moment donné, quand il y a eu les 10 plaies, à un moment donné, il endurcissait son cœur et puis la Bible dit que c'est Dieu qui a endurci son cœur. Mais il était responsable. Le peuple est sorti d'Égypte la main levée avec hardiesse. Alors il y a un contraste entre l'armée de Pharaon maintenant qui est la plus puissante et qui elle maintenant a le bras levé parce qu'ils sentent que la victoire est là, et puis le peuple qui est sorti les bras levés mais maintenant ils ont les bras ballants parce qu'ils voient l'armée si puissante arriver sur eux. Alors nous sommes un petit peu comme le peuple d'Israël, nous sommes les bras ballants parce que nous voyons bien les difficultés qui sont plus grandes que nous et nous les voyons souvent plus grandes que la puissance de Dieu. Nos ennemis semblent dominer sur nous, ils sont plus nombreux, ils sont plus forts, ils sont mieux armés. Jésus compare nos ennemis à des serpents, des scorpions. Il dit Jésus, vous marcherez sur les serpents et les scorpions. Néanmoins, si on voit un serpent arriver dans la salle, je ne suis pas sûr qu'on va marcher dessus comme ça. Parce que la réaction immédiate, c'est la peur. Si on voit des scorpions, on va tourner les talons, on va aller ailleurs. C'est normal, c'est la peur. Eh bien, c'est un petit peu la même chose dans notre cas de figure, parce que les serpents, nous savons tous qu'une morsure de serpent, ça peut nous tuer. D'ailleurs, il y a des serpents extrêmement venimeux qui peuvent, en quelques minutes, étouffer une personne ou le faire mourir. Il y a des venins extrêmement puissants. Donc, dans ces situations où nous ne pouvons rien faire, alors Jésus dit, voyez, il y a des serpents, il y a des scorpions, c'est quand même une armée ennemie. Alors, en plus, il dit, il y en a des nombreux, hein, ils sont nombreux, ils sont là, ils sont au pluriel. Des serpents, des scorpions. Mais il dit, vous allez marcher dessus. Vous allez marcher dessus. Dans les situations où nous ne pouvons rien faire, nous devons conserver la foi et garder les mains levées. Vous voyez, le peuple, il avait baissé les bras. C'est le peuple égyptien qui avait les mains levées. Mais nous, le peuple de Dieu, il ne faut pas qu'on baisse les bras, frères et sœurs. Même dans les situations où on est acculé, il faut qu'on lève les mains et qu'on continue à adorer le Seigneur. C'est là que Dieu va faire éclater sa gloire. N'oubliez pas le début du passage. Dieu n'a pas perdu de vue, il va faire éclater sa gloire, même si on est dans une défaite apparente. Dans l'Apocalypse, le Seigneur dit à l'église de Philadelphie, « Tu as peu de puissance. » Et c'était la difficulté de cette église. « Tu as peu de puissance. » Mais tu as gardé ma parole et tu n'as pas renié mon nom. Alors il dit, Apocalypse 3:8, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne pourra fermer. Ça veut dire que Dieu va faire éclater sa gloire pour cette église. Versets 10 à 12 maintenant dans notre texte, c'est la réaction du peuple. Dans les versets 10 à 12, on voit que le peuple, premièrement, a une vision limitée. C'est-à-dire que face à la difficulté qu'ils voient de leurs yeux, l'armée la plus puissante du monde, eh bien, ils oublient que Dieu est plus puissant que l'armée la plus puissante du monde. Ils oublient, et nos yeux, en fait, nous parlent plus que notre foi si nous laissons nos yeux nous diriger. Et notre vision révèle notre état spirituel, en fait. Quel est l'état de notre cœur? Qu'est-ce que nous laissons rentrer dans notre cœur? Le peuple voit les difficultés présentes, et il oublie la perspective divine. Il oublie que Dieu est avec eux. Que voit le peuple? Il voit un ennemi puissant, il voit un ennemi nombreux, un ennemi déterminé, il voit des armes, il voit des chevaux, il voit des chars, donc il ne voit pas l'issue. En fait, le texte dit qu'il se voit même déjà mort. Mais s'ils avaient levé les yeux un peu plus haut, s'ils avaient dépassé cette vision humaine des choses et qu'ils avaient regardé vers le trône de Dieu, ils auraient vu Dieu assis sur son trône et qui, lui, a tout pouvoir en tout temps. Il nous faut lever les yeux, frères et sœurs, les détacher des situations impossibles et nous tourner vers le Dieu qui peut tout faire. Où en est notre vision des choses? Voyez, la vision du peuple, c'était « Pourquoi tu nous as fait sortir d'Égypte? On aurait mieux aimé mourir là-bas plutôt que de mourir au désert. » Leur vision, c'était vraiment la mort. Ils parlent de mort. Est-ce que c'était le plan de Dieu qu'il meure en Égypte? Non. Ce n'était pas non plus le plan de Dieu qu'il meure dans le désert, mais les deux fois où il parle, c'est la mort. La mort en Égypte, la mort dans le désert. Ils n'ont pas d'autre vision que les choses terrestres. Quel dommage. Deuxième caractéristique dans la réaction du peuple, c'est la crainte. Toujours dans les versets 10 à 12, ils ont une vision humaine qui produit l'angoisse. Donc ils perdent leur assurance, ils n'ont même pas l'assurance du lendemain. Alors ils ne peuvent pas chasser la crainte parce qu'ils ont laissé le doute envahir leur cœur, mais ils devraient plutôt remplir leur cœur de la parole de Dieu. Proverbes chapitre 1, verset 33 dit « Celui qui m'écoute, c'est-à-dire celui qui écoute la parole de Dieu, reposera avec assurance, il vivra tranquille, sans craindre aucun mal. » Ça veut dire que si le peuple, à ce moment-là, il avait écouté la parole de Dieu, eh bien, il aurait pu avoir la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence alors que les ennemis étaient là. Parce que c'est un miracle que Dieu produit dans le cœur. Il vivra tranquille, sans craindre aucun mal. Et troisième caractéristique de la réaction du peuple, toujours dans les versets 10 à 12, c'est les paroles de doute qu'ils vont proférer tout du long, parce qu'ils vont murmurer contre Dieu, ils vont murmurer contre Moïse. Mais il ne faut pas oublier que Moïse, c'était Dieu qui l'avait choisi quand même. Donc ils murmurent contre Dieu, ils murmurent contre le serviteur de Dieu, et les paroles d'Israël reflètent leur cœur. Ils sont en train de regretter toutes les années passées en Égypte, où il y avait des melons, où il y avait à manger. Ici, ils se plaignent du désert, alors que ça faisait 400 ans qu'ils étaient là-bas. Ils ne parlent que de mort. Et ils oublient la réalité essentielle que nous ne devons jamais perdre de vue, c'est que Dieu est avec eux malgré l'épreuve. Et si nous perdons de vue que Dieu est avec nous, frères et sœurs, on va être les bras ballants, un petit peu comme les Hébreux ici. Au lieu d'avoir les mains levées comme les Égyptiens, eux, ils sont dans la victoire, eh bien, nous aurons les bras ballants comme le peuple d'Israël. Ça sera l'amertume, ça sera l'incrédulité, ça sera des paroles de découragement, et tout cela, ça amène le doute et ça crée même un découragement collectif. Éphésiens 4, 29. Voilà ce que dit Paul pour traiter notre bouche. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Moi, si je regarde les paroles du peuple, je vois que des paroles négatives. Ils critiquent Dieu, ils critiquent Moïse, ils regrettent l'Égypte. Bref, ils ne mettent pas en application le conseil de la parole de Dieu. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Bien, si vous regardez les paroles, les versets 10 à 12, regardez bien ces versets. Vous allez chercher la bonne parole qui produit l'édification. Vous ne la trouverez pas. Il n'y a pas de bonne parole qui produit l'édification dans les versets 10 à 12. Les paroles du peuple sont négatives et produisent le découragement. Et quand les paroles d'amertume vous viennent à l'esprit, qu'est-ce que vous devez faire? Une pensée, une mauvaise pensée vous vient et les paroles, elles sont là sur la porte de la bouche pour sortir. Eh bien, le conseil, c'est de la bloquer avant qu'elle sorte. Pourquoi? Parce que quand elle sort de votre bouche, vous lui donnez, c'est comme si vous lui donnez du carburant. Vous lui donnez de la force pour faire des dégâts. C'est ce qui s'est passé ici. Les paroles ont découragé tout le monde. Alors que si ils avaient contrecarré les paroles mauvaises qui venaient dans leur bouche et qu'à la place, ils avaient donné quelques paroles d'exhortation, d'encouragement, ça aurait été une toute autre histoire. Donc, à nous de faire attention quand la parole d'amertume, comme ici, les versets 10 à 12, elle vient sur notre bouche, alors bloquons-la et mettons-y à la place une parole d'édification. Troisième point, c'est maintenant la réaction de Moïse. Je voulais faire le contraste entre la réaction du peuple. On a vu chez le peuple trois choses. Un, une vision limitée. Deux, la crainte qu'ils ont de l'ennemi. Trois, les paroles de doute à la bouche. Je mets en contraste avec Moïse et c'est les versets 13 à 14. Versets 13 à 14, Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que Dieu va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Vous ne trouvez pas que c'est différent, ces paroles ? Ça n'a rien à voir avec les paroles des versets précédents. Les paroles de Moïse, lui, il a respecté les conseils de la parole de Dieu, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Il est vraiment dans l'esprit. D'abord, premièrement, il a une vision de foi. Alors qu'en face, le peuple a une vision limitée, eh bien, Moïse a développé une vision de foi. Quand il dit « les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais ». C'est assez audacieux. Bon, pour nous, on lit ça, on dit « c'est normal de dire ça ». Mais en fait, c'est assez audacieux parce que c'est quand même la plus grande armée du monde. Et vous dites « cette plus grande armée du monde, vous ne la verrez plus jamais ». Mais c'est des paroles extraordinaires. C'est une foi audacieuse. Moi, je dirais que la foi de Moïse ne s'appuie sur rien de rationnel. On pourrait dire, mais il est complètement fou de dire une chose pareille. Ça n'a aucun sens sur le plan de la logique. Un fou pourrait dire la même chose. Il pourrait dire, par exemple, bon, ben, l'armée des États-Unis pourra rien contre moi. Vous voyez ? On dit, il est fou. Il dit n'importe quoi. Ça n'a aucun sens. Parce que la foi ne s'appuie sur rien de physique. Elle s'appuie uniquement sur des principes spirituels. Donc Moïse l'a compris, il l'a reçu et il le dit. Moïse est très proche de Dieu. Il n'a pas besoin de dire qu'il a passé du temps avec Dieu parce qu'en fait, il a les paroles de Dieu à la bouche. Ça se voit. Son attitude est différente, ses paroles sont différentes, sa confiance est totale. Moïse voit bien les difficultés parce qu'il dit « les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, nous voyons bien qu'il y a des problèmes, nous voyons bien les difficultés, frères et sœurs, nous ne sommes pas aveugles. Mais nous devons développer une autre vision comme Moïse, c'est-à-dire une vision de foi. C'est ce que Moïse a fait, une vision de foi. Il voit la main de Dieu qui vient à son secours. Alors, quelque chose qui nous dérange beaucoup, c'est que Dieu attend souvent le dernier moment pour agir. Et nous, on aimerait mieux qu'il commence à agir dès le début de l'épreuve. Mais il attend souvent le dernier moment. Vous avez remarqué ça? C'est un petit peu perturbant. Parce qu'il nous place dans des situations instables et on n'aime pas l'instabilité. En fait, on n'aime pas du tout la situation. Par exemple, le peuple ici, bloqué face à la mer avec des ennemis qui viennent sur lui. On n'aime pas ces situations-là. Ce sont des situations instables. Et Dieu le fait exprès, je vous rappelle qu'il l'a fait exprès pour faire éclater sa gloire. Donc en fait, ce qu'il faut qu'on arrive à faire, frères et sœurs, c'est d'accepter de vivre des situations instables. Je sais que ça ne fait pas plaisir, mais si vous ne l'acceptez pas, vous allez mal le vivre. Et finalement, si vous le vivez mal, c'est dommage, parce que la situation instable, elle sera toujours là. Donc ce qu'il faut arriver à faire, c'est abandonner tout à Dieu et de dire « je suis dans une situation instable ». Mais Dieu va faire éclater sa gloire. Arriver à vivre bien dans une situation instable. Parce que si on n'y arrive pas, en fait, on se fait du mal à nous-mêmes. Parce que la situation instable, même si vous ruminez, même si vous êtes malheureux, même si vous devenez amer, en fait, elle sera toujours là. Donc, autant s'en accommoder. Un autre élément chez Moïse, c'est sa confiance absolue en Dieu. En face, le peuple, il exprime sa crainte, son doute, son regret de l'Égypte, et puis du côté de Moïse, il exprime sa foi. Il dit « ne craignez point, restez en place ». Voilà l'image du chrétien rempli de foi, il exprime sa confiance en Dieu, alors que tout va mal. C'est la paix de Dieu qui vient dans le cœur de Moïse. C'est vrai que la paix, ça ne s'achète pas. Je sais qu'il y a des religions qui cherchent la paix, comme le bouddhisme. On va voir une sœur d'ailleurs qui s'est préparée au baptême, là, qui va témoigner. Elle a un très très beau témoignage. Elle était bouddhiste, cette sœur, avant de se convertir. Elle est devenue chrétienne. Et en fait, elle exprime qu'elle n'a pas trouvé, elle n'a pas trouvé ce que sa religion lui promettait. Elle n'a pas trouvé la paix. En réalité, la paix n'est pas dans les religions, elle n'est pas dans les pharmacies, les médicaments. Elle est dans la présence de Dieu. Et Moïse l'a compris. Il avait la paix. Alors que c'était troublé autour de lui, Si vous acceptez Jésus, regardez Philippiens 4:8, c'est une promesse, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Quel miracle! Moïse est dans la paix, le peuple est dans la tourmente, alors que la paix, elle est gratuite, elle est donnée, le peuple aurait pu aussi avoir la paix. Et puis, Moïse a des paroles de foi. Face aux paroles de doute du peuple, Moïse donne des paroles de foi. Verset 14, il dit « L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. » Il sait que le peuple, d'abord, il sait très bien, Moïse, qu'avec un peuple pareil, il ne pourra jamais aller combattre les Égyptiens. Ils ne pourront pas se battre. Et vous voyez comment il voit la chose? Il dit « Ce n'est pas vous qui allez combattre, il dit « C'est Dieu qui combattra pour vous ». C'est extraordinaire. Le peuple n'aura même pas à combattre les Égyptiens. Il sait que son Dieu est plus puissant que ses ennemis. Alors pourquoi Moïse leur dit « Vous gardez le silence » C'est comme s'il leur disait « Mais taisez-vous ». Pourquoi il leur dit « Taisez-vous » Parce qu'ils profèrent des paroles négatives, des paroles d'incrédulité, ils regrettent l'Égypte, ils parlent de mort, voilà. Ils n'ont que des paroles mauvaises à la bouche, donc il leur dit « Taisez-vous, vos paroles sont contre-productives, si vous continuez à parler comme ça, tout le monde sera découragé. » Donc il dit « Gardez le silence. » Et frères et sœurs, c'est pareil pour nous, si on n'a pas de bonnes choses à dire, il vaut mieux garder le silence. C'est plus sage. De toute façon, si vous n'avez pas de bonnes choses à dire, les choses mauvaises que vous allez dire, vous allez semer des mauvaises choses que vous allez récolter dans votre vie. Donc, ça sera contre-productif. J'en arrive à la solution de Dieu, au verset 16. Quatrième point. Dieu n'est jamais dépourvu. Il dit à Moïse, lève ta verge, étends ta main sur la mer, fends-la, et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Ça, c'est la solution de Dieu. Dieu a toujours des solutions qui nous échappent. Là, il s'agissait d'ouvrir la mer en deux pour faire passer le peuple. Alors, personne n'avait pensé à cette solution. Mais Dieu va révéler cette solution à Moïse. Pourquoi ? Parce que Dieu révèle ses secrets à ses serviteurs. Amos 3:7, le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien qu'il n'ait révélé son conseil à ses serviteurs, les prophètes. Alors, c'est vrai, Dieu aurait pu dire tout à l'avance, mais il le dit au dernier moment et il nous faut nous habituer. En fait, j'ai remarqué plusieurs, dans mon expérience personnelle, mais aussi dans la parole de Dieu, que très souvent, Dieu nous dit les choses au dernier moment et il faut qu'on s'habitue à ça. Il faut qu'on s'habitue à ça parce que c'est comme ça que Dieu fait souvent. Il dit, même des fois, il dit alors que c'est mort. Il dit, par exemple, quand ce centenier vient le chercher pour sa fille qui est mourante, vite, viens à la maison, ma fille est mourante. Jésus traîne avec une femme qui est à la perte de sang. Il va prier pour elle, il va perdre du temps, il va lui parler. Et le centenier, il est pressé de ce que Jésus... Et puis, les gens viennent de la maison, mais ce n'est même plus la peine que Jésus vienne. Ils disent au centenier, ta fille est déjà morte. Donc, vraiment, c'est trop tard. C'est trop tard. Mais pour Jésus, ce n'est pas trop tard encore. Pour nous, on va dire humainement, c'est trop tard, mais Jésus dit non, ta fille n'est pas morte, elle dort. Il est sur un autre plan, il va faire une résurrection. Donc Jésus n'est pas en retard, Jésus, peut-être vous dites c'est mort, mais non, ce n'est pas mort en fait, parce que Dieu va ressusciter. Et il est au-delà de la mort. Moïse aurait pu passer des heures en fait, en se disant, mais comment Dieu va faire pour nous sortir d'affaire? Vous avez déjà réfléchi comment Dieu va faire pour me sortir d'affaire? Alors vous pouvez y passer la nuit à réfléchir. Et probablement que vous n'allez pas trouver la solution en plus. Donc vous aurez perdu une nuit et vous n'aurez pas la solution. Et Moïse, il n'avait aucune idée de ce que Dieu allait faire. Mais plus vous réfléchissez comment Dieu va faire, moins vous allez trouver comment il va faire. Parce que Dieu, il a son plan. Alors Moïse aurait pu se dire, mais comment on va faire? Est-ce qu'il faut qu'on construise des radeaux pour passer de l'autre côté? Comment on va faire pour trouver du bois? Vous voyez, on se crée des problèmes. On n'a pas de bois. Est-ce qu'il faudrait construire un pont pour passer de l'autre côté? Mais on ne sait pas construire des ponts, comment on va faire? Donc on peut réfléchir pendant des heures, on n'aura pas de solution. Finalement, on se sera usé, on n'aura pas avancé, on se sera inquiété et on n'aura toujours pas de solution. Et pourtant, Dieu vient avec la solution. Alors il dit, voilà, moi je vais ouvrir la mer en deux, vous allez passer au milieu de la mer. Et puis, comment Dieu va faire pour ouvrir la mer? Il utilise la verge de Moïse, ce simple bâton, son bâton de berger. Il dit, voilà, avec ce bâton, moi, je vais ouvrir la mer en deux. Dieu utilise les petites choses, les choses comme un bout de bois, des choses méprisables. Il dit, moi, tu prends ta verge, tu vas fendre la mer en deux. Bon, ben pour Dieu, ce n'est pas un problème. Et tout ça, ça va se faire dans la foi. Donc, les petites choses que nous avons, comme un bâton, amenons-le au Seigneur, faisons-lui confiance, et Dieu va utiliser nos faibles moyens pour faire le miracle, et la mer va s'ouvrir en deux. Je termine avec le verset 27, vous voyez, c'est le jugement de Dieu. Verset 27, dans le chapitre 14, toujours. Moïse étendit sa main sur la mer, vers le matin, la mer reprit son impétuosité, les Égyptiens s'enfuirent à son approche, mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Donc les Égyptiens qui ont poursuivi les Hébreux dans la mer, parce que la mer était ouverte en deux, ils se sont dit, on va passer, on va pouvoir passer nous aussi, sauf que Dieu a refermé la mer. Une fois que les Israélites étaient en sécurité, il a refermé la mer, les Égyptiens étaient dans la mer, ils étaient complètement pris par la mer. Donc Dieu laisse faire les Égyptiens jusqu'à un certain point, mais frères et sœurs, attention, il y a le jugement de Dieu qui va tomber. Et un jour, Dieu va rendre les comptes à chacun. Il accomplit sa volonté à travers des faibles instruments. Moïse n'était qu'un homme. Les Égyptiens étaient beaucoup plus puissants. Ils auraient pu tuer tout le peuple. Ils auraient pu les ramener en Égypte si Dieu n'était pas intervenu. Mais Dieu veille sur ses enfants. Et puis, c'est un avertissement. C'est qu'il y a un jugement de Dieu et que Dieu ne laissera pas le péché impuni. On va prier quelques instants. Je ne sais pas dans quelle situation vous êtes. Peut-être une situation défavorable. Comme le peuple, il n'y a pas d'issue. Vos ennemis sont plus nombreux, plus puissants, plus de difficultés. Mais rappelez-vous ce principe, comme nous l'avons vu, la victoire appartient à l'Éternel, Dieu combat pour nous. Restons confiants, comme dit Moïse, restez dans le silence. Attendez-vous à l'intervention de Dieu, faites confiance au Seigneur. Dieu a déjà une solution, alors ce ne sera peut-être pas la mer qui va s'ouvrir en deux, ce sera peut-être autre chose, parce que Dieu a toujours des solutions nouvelles à chaque situation. Il a une nouvelle solution, mais vous ne la connaissez pas. Il ne vous l'a pas révélée à l'avance, mais il va la manifester au moment qu'il voudra. Ne vous agitez pas à gauche, à droite. N'essayez même pas de faire la part de Dieu, c'est-à-dire de mettre en œuvre la solution de Dieu. Ça serait comme un petit peu vouloir vider la mer avec une petite cuillère. Vous n'y arriverez jamais. Dieu a ses moyens à lui. Il est plus efficace que nous. Merci encore, Seigneur, pour ta parole, pour ces exemples qui nous parlent de te faire confiance alors que nous sommes acculés, alors que les ennemis sont plus nombreux. Oh Seigneur, nous voulons tourner nos regards vers toi dans la foi ce soir et dire « Oui Seigneur, tu es notre Dieu, tu combats pour nous et c'est toi qui vas nous mener à la victoire. Merci d'entretenir nos cœurs, Seigneur, dans ces réalités spirituelles, que tu es tous les jours avec nous et que tu combats pour nous. Seigneur, nous te prions pour que nous ayons des victoires dans les combats, pour que mes frères, mes sœurs qui sont acculés, qui sont en difficulté, en proie aux attaques de l'ennemi ou sous les coups de l'adversaire. Seigneur, nous prions pour qu'il y ait des solutions divines qui viennent, Seigneur, pour que tu étendes ta main d'en haut et que tu te glorifies toi-même. Oui, dans le nom de Jésus, merci de conduire cette soirée de prière. À toi la gloire. Amen. Voilà qu'une ou deux personnes encore élèvent la voix. On s'attend à Dieu et on veut prier dans la foi ce soir. Alléluia. Amen.